monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Quand en des frontières, le commerce mondialise, que sous sa bannière, toutes les nations agonisent, quand pour seule culture, c'est le règne de l'argent, que sans fioriture, on vit rationnellement. Dans ce monde épanoui, libéral son parti pris, où l'argent nous réunit, moi je me dis. Tout le monde il est beau, le commerce réjouit.
Un des buts de l'initiative pour des multinationales responsables est de contraindre les entreprises suisses d'appliquer des mesures de protection des droits humains et de l'environnement dans leurs opérations au niveau mondial. Ces entreprises s'approvisionnent en matières premières et produits en provenance de pays loin, ce qui engendre pour elles le risque de se retrouver impliquées dans des violations des droits humains et des atteintes à l'environnement. La chaîne d'approvisionnement de l'or en est un exemple, et régulièrement des atteintes aux droits humains dans le secteur aurifère sont révélées. Nous parlons de cela avec Marc Hummel, responsable matières premières auprès de l'ONG SwissAid, active entre autres dans les domaines des matières premières et de la responsabilité des entreprises en Asie, Afrique, Amérique latine et Suisse. Bonjour Marc.
Bonjour.
Pour mieux comprendre le contexte général en ce qui concerne le commerce de l'or au niveau mondial, depuis son extraction jusqu'à sa mise sur les marchés, pouvez-vous déjà nous donner quelques clés de compréhension globale et technique ?
Oui, donc il faut savoir qu'on utilise l'or. L'or est extrait depuis des millénaires. C'est une matière première spécifique, car l'or est recyclable à l'infini, donc il y a toujours plus d'or qui est en circulation. Si on parle de l'origine de l'or, il faut différencier entre l'or minier qu'on extrait de la mine et l'or recyclé, que l'on recycle principalement des bijoux et des matériaux électroniques. Et quand on parle du commerce de l'or minier, on peut différencier trois étapes. Donc il y a tout d'abord l'extraction, ensuite la transformation, donc c'est-à-dire le raffinage où la Suisse joue un rôle principal, et ensuite la commercialisation, donc l'usage qu'on en fait. Pour l'extraction, il faut savoir que l'or est produit dans plus de 90 pays, et il y a il y a principalement deux types d'or qu'on peut extraire. Il y a l'or qu'on extrait de la roche dure, c'est le minerai d'or qui est généralement contenu dans du granit ou du quartz. Et ensuite, vous avez l'or alluvial qui est extrait dans ce qu'on appelle de la roche tendre et qui est extrait de gisements de sable ou de gravier qu'on trouve généralement dans les cours d'eau. Chaque année, on produit entre 3000 et 4000 tonnes d'or minier. Et l'or est produit dans plus de 90 pays de manière industrielle. Donc les plus gros producteurs mondiaux sont la Chine, l'Australie, la Russie et les États-Unis. Mais on trouve aussi des pays comme le Pérou, le Ghana, le Mali ou le Burkina Faso qui produisent aussi des grandes quantités d'or, autant de manière industrielle que de manière artisanale. Et pour certains pays comme le Burkina Faso par exemple, le secteur aurifère représente une grande partie du revenu du pays. Il faut savoir que ça représente environ 80% du revenu de ses exportations. Donc il y a une grande dépendance vis-à-vis de cette matière première si on le compare par exemple avec les États-Unis où c'est seulement 2%. Ensuite, si on regarde la transformation, donc les activités de raffinage, la Suisse raffine 70% de l'or mondial, donc elle joue un rôle vraiment très important. Et ensuite, on aura peut-être l'occasion de parler plus tard de la commercialisation et de voir où va cet or. Et peut-être encore un dernier point au niveau du prix de l'or, donc la valeur que ça représente. Un gramme d'or, ça représente aujourd'hui au niveau du marché 48 francs, donc un kilo, c'est environ 48 000 francs.
Alors, il y a surtout deux grandes façons d'exploiter l'or. 85% est effectué par des grandes entreprises minières, donc surtout les canadiennes, états-uniennes et sud-africaines. Et ces entreprises emploient seulement, en guillemets, 10% des personnes qui travaillent dans l'exploitation de l'or et le 90% plutôt des autres travailleurs dans ce secteur, ce qui correspond à 20 à 30 millions de personnes sont employées dans les mines artisanales. Et quelles sont les différences, une fois encore un peu techniques et structurelles, de ces deux secteurs du commerce de l'or ?
Oui, donc vous le dites très bien, il y a une grande différence entre l'extraction industrielle et l'extraction artisanale. Donc pour l'extraction industrielle, il y a tout d'abord une phase d'exploration avec des études géologiques très précises qui sont menées pour déterminer le contenu et les caractéristiques de ces gisements d'or. Et ensuite, il y a une phase d'exploitation où l'or est extrait en fait suivant deux techniques. Donc on a soit des mines à ciel ouvert ou des mines souterraines. Généralement, les mines souterraines, c'est quand le minerai se situe à plus de 400 mètres de profondeur, et on peut trouver des mines qui vont jusqu'à 4 km de profondeur, notamment en Afrique du Sud. Et l'extraction industrielle, elle nécessite des sommes vraiment extrêmement importantes d'argent et des moyens techniques très développés, comme des engins de chantier au gabarit vraiment très impressionnant. Donc dans l'extraction industrielle, de manière générale, on utilise vraiment des méthodes d'extraction entièrement mécanisées. Si on regarde maintenant du côté de l'extraction artisanale, elle se fait principalement de manière manuelle, ou alors dans certains cas de manière semi-mécanisée, aussi dans des mines à ciel ouvert ou de manière souterraine. Et c'est très difficile à caractériser les mines artisanales parce qu'il y a vraiment différents types. Certaines sont formalisées et déclarées, d'autres sont illégales ou informelles, et elles fonctionnent selon des mécanismes différents. Certaines fonctionnent en coopérative, d'autres selon le modèle privé. Et les grandes difficultés pour les mineurs artisanaux, c'est principalement l'accès au financement et l'accès aux informations géologiques. De même qu'ils se retrouvent aussi ils sont confrontés à des conditions de travail parfois très dangereuses, avec la question de l'éboulement des puits qui ne sont pas sécurisés. Et encore, il faut savoir que pour l'extraction artisanale, elle a lieu dans plus de 70 pays, mais principalement dans les pays en voie de développement. Ensuite, vous l'avez bien dit, l'impact socio-économique est très différent, puisque les mines industrielles opèrent plutôt en vase clos. Il y a peu de populations locales qui sont employées. Vous avez aussi la problématique avec les mines industrielles qu'ils bénéficient peu à la population locale. Alors oui, ils payent des taxes importantes à l'État, mais encore, ce n'est pas toujours le cas. Vous avez la problématique des clauses de stabilisation, comme le montre l'exemple de la société Ringgold au Mali. Il faut savoir aussi, c'est un chiffre important, que pour produire 1 kg d'or, on emploie 0,2 emplois pour les mines industrielles, et ça emploie 45 emplois dans les mines artisanales. Donc on voit bien la différence de l'impact. Donc l'impact socio-économique est beaucoup plus fort pour les mines artisanales, et il y a plusieurs études qui le démontrent. Vous avez bien dit qu'il y a 30 millions de personnes qui travaillent dans les mines artisanales. Ces 30 millions de personnes font vivre 100 millions de personnes, donc c'est un moyen important aussi de lutte contre la pauvreté, si bien évidemment il y a ce processus de formalisation qui est bien mené. Et on constate aujourd'hui qu'il y a un changement important de paradigme, c'est-à-dire qu'avant, les mines artisanales étaient toujours vues de manière très critique. Aujourd'hui, on voit que l'OCDE ou la Banque mondiale aussi voient ça comme un moyen de lutte contre la pauvreté, pour autant bien évidemment que ce soit bien formalisé. Donc on voit là que ce changement de paradigme est très intéressant, et on se doit aussi on espère que ce changement va aussi arriver en Suisse avec tout le secteur de l'or qui, on espère, va s'engager davantage dans les mines artisanales.
Mais Marc, quand on voit des documentaires sur les conditions d'extraction de l'or, par exemple au Burkina Faso, vous disiez que ça emploie beaucoup de monde, donc ça lutte un petit peu contre la pauvreté, contrairement aux mines à extraction industrielle. Mais est-ce que c'est judicieux de réfléchir comme ça lorsqu'on voit les conditions de travail dans lesquelles ces gens vivent, et notamment une espérance de vie, par exemple, qui se raccourcit fondamentalement parce que les enfants travaillent depuis leur plus tendre âge dans les mines?
Oui, vous avez raison de le dire. Ça pose problème, mais toute la problématique est de voir comment affronter ce problème. Et aujourd'hui, on voit que les mines artisanales, alors oui, si on parle de la question des droits humains, ça pose des grands problèmes. Vous avez évoqué la question du travail des enfants. Vous avez aujourd'hui plus d'un million d'enfants qui travaillent dans les mines artisanales. Vous prenez le cas du Mali, vous avez environ 100 000 enfants. Au Burkina Faso, c'est 80 000 enfants. Donc ça pose un énorme problème. De même, vous avez aussi la question du financement des activités criminelles. On l'a vu en Colombie, en République démocratique du Congo, mais aussi au Burkina Faso avec les groupes terroristes. Oui, il y a un énorme problème avec les mines artisanales, mais en même temps, on a aussi énormément de problèmes avec les mines industrielles. Et c'est souvent quelque chose qu'on ne voit pas ou qui n'est pas assez cité. C'est toute la problématique du déplacement des populations forcées. Vous avez le cas de Nordgold au Burkina Faso, où il y a 14 000 personnes qui ont été déplacées. C'est des personnes qui ont perdu leur accès aux terres, l'accès à l'eau. Vous avez parfois des violences physiques ou des indemnités qui sont vraiment dérisoires, qui sont versées aux populations locales. C'était le cas de la société Anglo-Gold Ashanti en Guinée. Et c'est assez intéressant de voir aussi que si on compare avec les pays occidentaux, enfin vous prenez en Afrique de l'Ouest, pour obtenir un permis de projet de mine, en moins d'un an, vous arrivez à avoir ce permis. En Amérique du Nord, ça prend minimum 5 ans. De même qu'en Suisse, on avait découvert des gisements d'or dans les Grisons. La population locale s'est prononcée la contre et le projet a été abandonné. Dans de nombreux pays, ce sont les mineurs artisanaux qui font ça à côté. Dans certains pays du Sahel, c'est juste une activité, l'orpaillage qu'on fait pendant une certaine saison, quand les revenus d'agriculture ne sont pas bons, et qui, ben, c'est souvent, malheureusement, le cas, ces populations locales perdent cet emploi quand vous avez une grosse société minière qui s'implante sur leur territoire. Donc oui, ça pose énormément de problèmes, mais en même temps, on a bien listé les différents problèmes que posent les mines artisanales, mais en même temps, on le voit que si cette exploitation artisanale est formalisée, si elle est faite dans des conditions sûres, si l'utilisation du mercure est bannie, ça peut amener à avoir un impact extrêmement positif au niveau de la population.
Et cette formalisation, elle est donnée par qui ?
La formalisation, je pense que c'est différents acteurs qui doivent être impliqués. L'acteur qui a le rôle le plus important, évidemment, c'est l'État.
C'est l'État
dans lequel se trouvent ces mines, mais il faut aussi savoir que souvent, ce sont des États défaillants qui n'ont pas les capacités de s'engager, puisque la formalisation des mines coûte cher. Vous devez avoir tout un processus de différents entraînements ou formations qui doivent être donnés à ces mineurs. Et là, on pense, et c'est aussi le rôle des acteurs qui sont en bas de la chaîne de valeur, de s'engager dans cette formalisation, de mettre les moyens à disposition pour que les mineurs puissent aussi travailler dans de meilleures conditions.
Et les transnationales, par exemple, pour ce qui est de l'extraction industrielle, elles participent à cette phase ? Elles la soutiennent ou elles font des pressions pour que cette phase de formalisation soit faite dans des meilleurs délais ou comme ça ?
Non, puisque généralement, les grosses sociétés multinationales qui sont actives dans l'extraction d'or, elles seront préoccupées par le fait de commencer leur activité et elles ne prennent pas vraiment soin des mineurs artisanaux qui se trouvaient sur les terres qu'ils vont occuper ou qui se trouvent aux alentours. Donc vous avez énormément de pays où vous avez des tensions entre les mineurs artisanaux et ces grosses sociétés minières qui, au final, emploient peu de personnes. Et vous avez des cas, alors ce n'est pas seulement le cas dans l'or, mais vous avez... C'est exactement le cas dans l'exploitation du cobalt ou du cuivre, où vous aviez par exemple, c'était en République démocratique du Congo, vous avez des mineurs artisanaux qui viennent la nuit sur ces exploitations industrielles, puisqu'ils n'ont plus aucun revenu et ils arrivent dans des activités illégales et ils entrent sur ces sites et vous avez fréquemment des gros accidents. Il y a plusieurs mineurs artisanaux qui ont perdu leur vie, mais on voit que la cohabitation est souvent très difficile, mais il y a aussi des bons exemples où certaines grosses sociétés minières donnent une certaine parcelle aux mineurs artisanaux, donc ça se passe bien, mais dans certains cas, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'or qui se trouve dans ces parcelles, donc ça pose aussi d'énormes problèmes.
La chaîne d'approvisionnement de cette matière première provoque constamment des violations des droits humains. Vous pouvez nous dresser un tableau de ces violations ? De quoi s'agit-il ?
Oui, donc je pense qu'encore une fois, il faut différencier entre les violations qui sont faites au niveau des mines industrielles et des mines artisanales. Pour les mines industrielles, c'est principalement le déplacement forcé des populations. Vous avez le cas de Nordgold au Burkina Faso, il y a 14 000 personnes qui ont été déplacées. C'est vraiment la problématique de l'accès aux terres, de l'accès à l'eau. Vous avez parfois aussi des violences physiques et des indemnités dérisoires qui sont payées à ces populations déplacées, comme le montrait là. Le cas de la société Anglo-Gold Ashanti en Guinée. Et vous avez justement cette comparaison qui pose aussi problème avec les pays occidentaux. Quand on voit qu'en Afrique de l'Ouest, l'obtention d'un permis pour un projet peut se faire en un an, alors qu'en Amérique du Nord, ça prend minimum 5 ans. Et vous avez aussi souvent les mineurs artisanaux qui sont chassés de leur terre et qui ne peuvent plus exercer cette activité. Si on regarde la problématique des violations des droits humains dans les mines artisanales, c'est principalement le travail des enfants. Vous avez plus d'un million de... C'est un chiffre qui n'est pas vraiment précis, on a de la peine à l'estimer, mais il y aurait environ un million d'enfants qui travaillent dans les mines artisanales, d'environ 100 000 au Mali ou 80 000 au Burkina Faso. Un autre gros problème est la question du financement d'activités criminelles, que ce soit en République démocratique du Congo, en Colombie, ou maintenant aussi au Burkina Faso avec les groupes terroristes. Donc ce sont ces groupes armés qui profitent en fait de s'accaparer ces mines pour ensuite commercialiser cet or et financer leur activité criminelle avec ça. Donc ça montre en fait l'importance aussi d'avoir toute cette transparence dans cette chaîne d'approvisionnement et d'avoir des processus de devoir de diligence rigoureux pour éviter qu'il y ait cette violation des droits humains qui se fait au niveau de l'extraction.
Et au niveau de l'environnement, pollution de l'eau, beaucoup de mercure, c'est des choses qu'on remarque régulièrement dans les lieux d'extraction.
Oui, bien sûr. Si on prend le cas des mines industrielles, donc là c'est plutôt l'utilisation du cyanure qui est faite. Le cyanure contribue aussi à la pollution des cours d'eau. Donc encore une fois, il faut savoir comment c'est géré. Dans certains cas, on fait extrêmement attention. Dans d'autres, il n'y a aucune règle et ça pose beaucoup de problèmes. C'est le cas par exemple au Ghana de Anglo-Godashanti qui avait contribué à la pollution de 12 rivières. Et de même, l'activité de manière générale au niveau industriel pose certains problèmes puisque pour avoir 1 ou 2 grammes d'or, vous devez extraire une tonne de minerai. Mmh. Et ensuite, ces sites sont souvent abandonnés et pas réhabilités. Vous avez le cas notamment de Kalsaka par exemple au Burkina Faso où ça reste une ruine entière polluée. Maintenant, si on prend le cas des mines artisanales, là, c'est clair, c'est la fameuse problématique du mercure qui est extrêmement nocif pour la santé. Malheureusement, ces mineurs n'ont pas les protections adéquates ou ne les utilisent pas, ce qui cause aussi beaucoup de maladies. Et un cas qui illustre ça très bien, c'est le cas de Madre de Dios au Pérou. Vous avez toute une région entière qui a été polluée au mercure.
Et déplacements de population aussi.
Et les déplacements de population aussi, oui.
On l'a dit tout à l'heure, les grandes entreprises minières, elles sont principalement canadiennes, des États-Unis, sud-africaines. Au niveau de la Suisse, Glencore est une transnationale qui est active dans le commerce de l'or.
Oui, alors comme vous l'avez bien dit, c'est vrai que la Suisse abrite très peu de sociétés qui sont actives dans l'extraction, elle abrite des sociétés qui sont actives dans l'exploration. Donc là, c'est vraiment le début de l'activité des mines industrielles, comme je l'expliquais avant. Et au niveau de Glencore, on a peu de données précises sur ce qu'elle fait exactement dans le domaine de l'or, puisqu'elle dit que ses activités dans l'or sont principalement liées à l'extraction de ces mines de zinc qu'on peut trouver au Kazakhstan, en Australie, en Amérique du Sud ou au Canada. Donc elle est active en quelque peu dans le domaine de l'or, mais très peu. Mais elle est surtout connue, Glencore, pour ses activités dans l'extraction du cuivre ou du cobalt, notamment en République démocratique du Congo ou en Zambie, où il y a des grands problèmes de pollution et d'oxyde de soufre, et au-delà de ça, et tous les problèmes liés aussi à la corruption et aux montages fiscaux.
Mmh. Bon, maintenant que nous avons un peu mieux compris le contexte général et les problèmes liés au commerce de l'or, pouvez-vous brièvement nous décrire ce qui est mis en place ou tenter d'être mis en place au niveau international pour diminuer ces violations dont on vient de parler ?
Oui, donc si on prend le niveau international, je dirais que la grande référence est le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables provenant de zones de conflit ou à haut risque. On est aujourd'hui à la 3e édition de ce guide et tous les standards devraient normalement être basés sur ce guide de l'OCDE qui fait office de référence. Vous avez pour la problématique du mercure la convention de Minamata qui a été signée par de nombreux États mais qui peine encore à entrer en vigueur. Donc la convention de Minamata, c'est un traité international pour bannir l'utilisation du mercure au niveau international. Ensuite, vous avez d'autres législations comme la législation de l'Union européenne sur les minerais de conflit qui va entrer en vigueur en 2021. Et vous avez ensuite les standards de la branche. Pour l'or, vous avez la London Bullion Market Association qui a créé son standard qui s'appelle la Responsible Gold Guidance. Et vous avez aussi le standard de la RGC, Responsible Jewelry Council, qui eux ont deux standards, le Code of Practice et le Chain of Custody. Mais il faut savoir que ces standards de la branche, ils ont été extrêmement critiqués dans un rapport de l'OCDE qui est sorti l'année passée, qui disait qu'il y a moins de 50% de ces standards qui respectaient les 5 étapes de diligence requises par l'OCDE. Donc oui, ils ont maintenant fait des nouvelles éditions en essayant de s'améliorer, mais ça montre que ces standards ne peuvent pas résoudre tous les problèmes et qu'il y a aussi des grands problèmes avec eux. Et enfin, si on regarde pour les mines artisanales, vous avez les standards de fair trade et de fair mined.
Puis est-ce que la Suisse, elle souscrit à ces pactes ?
Oui, alors la Suisse s'est engagée pour la mise en œuvre du guide OCDE sur le devoir de diligence. Par contre, au niveau de la législation, on voit qu'aujourd'hui, il y a un grand problème au niveau suisse. Donc, on ne sait pas si la législation qui va entrer en vigueur au niveau niveau de l'Union européenne sera reprise au niveau suisse. Il faut savoir que les entreprises suisses sont extrêmement influentes, que ce soit dans le standard de la LBMA ou dans le standard de la RGC, et qui jouent, enfin, leur voix est extrêmement importante dans ces standards. Donc c'est aussi, on leur demande aussi qu'ils mettent la pression pour que ces standards deviennent beaucoup plus rigoureux et qu'ils empêchent la violation des droits humains dans le secteur de l'or.
Est-ce que les interventions auprès des grandes firmes extractives et des mines artisanales peuvent être les mêmes, compte tenu justement du côté plus informel des mines artisanales et peut-être moins contrôlable, entre guillemets?
Oui, bon, faut savoir que l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement devraient respecter les 5 étapes du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, mais c'est vrai que les interventions divergent. Si on regarde les mines industrielles, il faudrait augmenter la transparence des contrats entre l'État et la société minière. Maintenant, il y a des progrès qui ont été faits au niveau de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, où les contrats devront être divulgués dans les pays de l'ITE. On devrait améliorer la transparence des sommes qui sont versées aux impôts, aux États, que ce soit la question des impôts, les royalties, les redevances. Il y a aussi toute cette question de lutte contre les clauses de stabilité qu'on devrait aussi thématiser. Enfin, on aimerait aussi que les mines industrielles s'impliquent davantage dans la publication des évaluations d'impact quand elles vont ouvrir un nouveau site minier. Quel impact ça a sur les populations locales? Quel impact ça a au niveau de l'environnement? Aussi qu'il y ait plus de transparence sur les indemnités qui sont payées aux personnes déplacées. Enfin, quand on regarde pour les mines artisanales, c'est vrai que là, c'est la question de la formalisation, la question de la légalité du secteur. Et là, comme on l'a dit avant, c'est l'ensemble aussi des acteurs qui doivent s'engager là-dedans, l'État, les acteurs qui sont en bas de la chaîne d'approvisionnement. On devrait aussi aider ces mineurs artisanaux à avoir un accès au financement pour améliorer leurs pratiques. Il faudrait aussi réussir à réduire les intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement pour qu'on arrive à avoir un devoir de diligence qui est beaucoup plus simple et pour avoir aussi un meilleur contrôle. Et il y a aussi des alternatives qui se développent, comme par exemple l'utilisation de la méthode de la gravitation pour ne plus utiliser de mercure.
La coopération au développement joue un rôle décisif pour changer les choses au niveau des mines artisanales, comme l'atteste l'engagement de Suisset en Tanzanie. Est-ce qu'un niveau plus international est aussi engagé dans ces transformations?
Oui, enfin, comme vous l'avez dit, il y a différentes ONG qui sont impliquées dans cette formalisation des mines artisanales. Vous avez aujourd'hui aussi la Banque mondiale qui essaye de financer des projets. L'Union européenne aussi est très active là-dedans. Vous avez la Suisse qui avait un projet excellent en Mongolie, mais qui malheureusement est arrivé à son terme aujourd'hui. Et on essaye aussi de pousser la DDC à ce qu'elle s'engage davantage dans la formalisation des mines artisanales, mais c'est clair que l'aide au développement a un rôle extrêmement important à jouer dans ce secteur-là. Oui.
Et puis avec les attaques qu'on fait contre la DDC, ça va être un petit peu plus compliqué de continuer à agir dans...
Oui, c'est extrêmement difficile, mais il y a aussi une sorte de contradiction, parce qu'on dit aujourd'hui, enfin c'est un peu le discours du conseiller fédéral Ignacio Cassis, qui dit que les intérêts suisses doivent être plus liés à l'aide au développement de la Suisse, mais on parle seulement de migration, c'est toujours ces questions-là qui ressortent, et on ne parle pas des intérêts qu'a la Suisse. Enfin, la Suisse est justement la plateforme internationale du commerce de l'or, où il y a 70% de l'or qui est vraiment raffiné ici, mais on ne se préoccupe pas de la manière dont dont cet or est produit. Alors oui, on arrive toujours avec cette excuse de la Belt and Road Initiative, qui est une bonne initiative en tant que telle. Donc il faut savoir que c'est un partenariat public-privé entre d'une part le SECO, donc l'administration suisse, et d'autre part les acteurs du secteur en Suisse, qui sont regroupés au sein de cette association. Et les deux se sont mis en œuvre pour essayer de travailler à la formalisation des mines artisanales dans 3 pays, au Pérou, en Bolivie et en Colombie. C'est une initiative qui a débuté en 2013 et là, on est dans la phase 2. Mais les résultats demeurent encore très modestes. L'objectif pour l'année prochaine, c'est d'arriver à importer 5 tonnes d'or, alors qu'on sait personnellement que la Suisse importe entre 2500 et 3000 tonnes par année. Donc on voit que c'est une goutte d'eau dans un océan, même si c'est déjà très positif, mais c'est une initiative qui devrait augmenter, qui devrait être beaucoup plus importante et dans laquelle le secteur en Suisse devrait s'engager Davantage. Le secteur privé devrait s'engager davantage. Mmh. Oui.
Alors, vous avez parlé du rôle de la Suisse, justement, dans la chaîne de l'approvisionnement de l'or. On a vu qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont directement engagées dans l'extraction. Mais par contre, la Suisse importe et raffine le 70% de l'or mondial, tout en abritant 4 des 6 plus grandes raffineries, au niveau mondial toujours. Donc la Suisse joue un rôle majeur dans le commerce international de cette matière première. Tout d'abord, Marc, pourquoi autant de concentration d'or en Suisse ?
Oui, donc il y a plusieurs facteurs qui expliquent en fait pourquoi la Suisse est devenue la principale plateforme de l'or mondial. Un élément, c'est la proximité avec l'Italie. Il faut savoir que l'Italie était le plus grand producteur mondial de joaillerie dans les années 70. Donc ce qui explique notamment pourquoi il y a 3 de ces grandes raffineries en Suisse qui se trouvent au Tessin. Vous avez le rôle des banques, évidemment, puisqu'elles émettaient
Des lingots
à leur nom, et ces banques possédaient aussi les plus grandes raffineries. Argor appartenait à UBS, Valcambi à Crédit Suisse et Metallor à la Société de Banque Suisse. Ensuite, un autre élément important, c'est la question de la sécurité, de la stabilité de la Suisse, de même que la qualité de ses infrastructures. Enfin, c'est aussi la législation favorable en Suisse, notamment entre 1981 et 2012, il n'y avait aucune statistique sur l'origine de l'or importé en Suisse qui était public, ce qui était notamment lié aussi au fait qu'on voulait cacher que la Suisse faisait du commerce avec l'Afrique du Sud qui était sous le régime de l'apartheid et soumis à un embargo international.
Donc ces 4 plus grandes raffineries sont accusées quand même par plusieurs ONG, dont la vôtre, donc Suisse-Aide, d'être impliquées dans des violations des droits humains. Vous pouvez nous en dire davantage ?
Si on prend des exemples concrets, vous aviez la raffinerie Argor qui avait raffiné de l'or pillé par des groupes armés en République démocratique du Congo, la raffinerie Valcambi qui avait raffiné de l'or produit par des enfants au Burkina Faso, et cet or avait transité de manière illégale par le Togo. Vous avez Metallor qui avait été impliqué dans le raffinage d'or illégal qui a permis de financer des activités criminelles au Pérou. Et aujourd'hui, on a encore de grands doutes sur plusieurs de ces raffineries qui importent de l'or, notamment de Dubaï, qui est un peu la plaque tournante de l'or artisanal. Et vous avez aussi d'autres cas qui restent en suspens, comme Argor, qui a de grands problèmes avec son fournisseur en Colombie, qui sera impliqué dans plusieurs violations des droits humains. Donc on voit que c'est un problème qui reste très actuel et pour lequel les mesures qui doivent être prises ne l'ont pas encore été.
Mais tous ces exemples de violations dont vous venez de parler, on s'en est rendu compte après que l'or est arrivé ici, après qu'il a été raffiné ?
Non, ça fait des années que les ONG tirent la sonnette d'alarme et qu'on essaye d'alerter l'opinion publique et le monde politique sur ces problèmes-là. Et c'est une raison pour laquelle l'initiative pour les multinationales responsables a été lancée, puisque on voit que la Suisse joue un rôle extrêmement important et qu'elle peut jouer un rôle important aussi pour lutter contre la violation des droits humains. C'est aussi le Conseil fédéral qui le reconnaissait dans son dernier rapport sur l'or qui a été publié l'année passée. Donc ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on voit que le problème n'a toujours pas été résolu. Et si on prend le cas spécifique de l'or, c'est seulement l'année passée que le Conseil fédéral et encore, c'était suite à un postulat de M. Recordon que le Conseil fédéral a publié un rapport où il dit clairement, il reconnaît le grave problème, il présente des mesures, mais c'est des mesures insuffisantes.
Quelles sont ces mesures ?
Et ces mesures, il y a 8 recommandations qui sont faites. Enfin, si on prend juste le constat du rapport, c'est que le rapport, si on lit un peu entre les lignes, il dit très clairement que ni la législation en vigueur en Suisse, ni les standards de la branche ne permettent de lutter contre la violation des droits humains dans le secteur de l'or.
Mais alors que vous parliez tout à l'heure des standards OCDE, enfin de ce que l'OCDE préconisait, c'était quand même des actions assez fortes, non ?
Oui, il faut savoir que l'OCDE, c'est une sorte de base qui édicte en fait les directives qui doivent être appliquées dans les standards. Et on voit que les standards de la branche ne respectent pas encore totalement les directives de l'OCDE. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Les standards ne permettent pas l'importation d'or sale en Suisse, de même que la législation en vigueur en Suisse. Donc ça, c'est un peu le constat. Et ensuite, quand on voit les mesures proposées par le Conseil fédéral, vous avez 8 recommandations. et c'est des recommandations extrêmement floues où c'est encore énormément basé sur des mesures volontaires. Voilà. On ne veut pas de processus de devoir de diligence obligatoire. Et c'est ce qui pose problème. Et une année après la sortie de ce rapport, il n'y a encore aucune mesure concrète qui a été prise. Au-delà du fait que pendant une année, on a aussi mis la pression au niveau politique, au niveau de l'administration. Il y a différentes interpellations qui ont été déposées au Parlement, des motions qui ont été déposées, notamment sur la transparence de l'origine de l'or. Mais le Conseil fédéral, à chaque fois, a émis un avis défavorable.
Ces fameux standards volontaires dont on aimerait bien qu'ils prennent la place de l'initiative pour les multinationales responsables, enfin, d'après le dernier message de Karine Kellex-Sauter.
Oui, c'est exactement ça. C'est ce que répètent aussi les gens du secteur de l'or et les gens qui travaillent dans ces raffineries, qui sont à la tête de ces raffineries, qui nous disent « Oui, mais on ne veut pas encore un instrument supplémentaire avec l'initiative pour les multinationales responsables, puisqu'on a déjà des audits qui viennent de ces standards et on suit scrupuleusement ces standards, mais on voit très bien que ces standards n'empêchent pas que ces raffineries soient impliquées dans la violation des droits humains. Et on voit que tout le problème est là, puisque au final, si l'initiative passe, ce ne sera pas un exercice supplémentaire que ces raffineries doivent faire, puisqu'elles disent déjà aujourd'hui qu'elles respectent leur devoir de diligence de manière importante. Donc elles font attention à comment l'or qu'elles importent, quelles sont les conditions de production de cet or, qu'elles vont sur le terrain pour voir comment c'est produit. On sait pertinemment avec les différents rapports qui sont publiés de la part de la société civile que ce n'est pas le cas. Et pourtant, on sait aussi, enfin, comme on l'a déjà répété, que ces raffineries jouent un rôle extrêmement important, puisque si elles mettent en œuvre un devoir de diligence robuste et qu'elles font attention à si la production de cet or ne participe pas au financement d'activités criminelles, qu'il n'y ait pas d'enfants qui participent à l'extraction de cet or, que c'est aussi la vie de millions de mineurs qui peut être améliorée. De même que si on construit des chaînes d'approvisionnement plus courtes, ce sera beaucoup plus facile d'avoir un vrai contrôle et aussi que le mineur à la base puisse avoir un revenu décent, puisque plus vous avez d'intermédiaires, plus il y a des gens qui vont se servir au passage et le pauvre mineur artisanal qui au final fait le travail le plus dur dans la chaîne d'approvisionnement n'aura pas un revenu décent.
Mais comment ça se fait alors que le Conseil fédéral dit, je cite, « Le commerce de l'or est encadré par une des législations les plus sévères du monde ».
On a beaucoup de peine à comprendre parce qu'il se base notamment sur la loi sur le blanchiment d'argent, où ils disent que le secteur de l'or est touché, mais le secteur de l'or touché par cette législation, c'est seulement l'or bancaire et c'est pas l'or minier.
D'accord.
Et c'est-à-dire que là, ça pose un...
C'est malin.
C'est extrêmement malin, puisque ça permet d'éviter de pas faire attention. Alors maintenant, on est dans un processus où la loi sur le blanchiment d'argent va être révisée. Mais de nouveau, dans la proposition du Conseil fédéral, on ouvre la porte à ce que les conditions de production soient peut-être dans un futur intégrées, mais en tout cas pas dans la réforme actuelle. Donc là, on ne comprend vraiment pas, vu l'urgence actuelle, de ne pas intégrer cette question dès à présent.
Donc on voit bien qu'il y a des changements qui doivent intervenir au niveau de la Suisse. Le changement le plus proche et le plus radical, c'est l'initiative pour les multinationales responsables.
Oui, je crois que pour améliorer le secteur de l'or et que améliorer toutes ces problématiques qui sont liées à l'extraction et aux violations des droits humains dans la chaîne d'approvisionnement, l'initiative pour les multinationales responsables joue un rôle extrêmement important, puisque si elle passe, c'est clair que les raffineurs devront faire beaucoup plus attention, devront avoir des processus de diligence extrêmement robustes. Elles auront cette responsabilité civile, c'est-à-dire qu'elles ne pourront plus s'engager dans une relation d'affaires sans se dire « Ah, mais attention, s'il y a un problème, qu'est-ce qui va se passer ?» Elles devront vraiment avoir des processus très rigoureux, avoir un contrôle beaucoup plus strict. Et là, on est sûr que ça pourra améliorer, avoir un impact extrêmement important sur le terrain et sur les mines. Après, il y a d'autres mesures qui doivent être prises, notamment sur la transparence de l'origine de l'or. Et ça, c'est toute la question de la traçabilité de l'or, des déclarations douanières qui sont faites. Et aujourd'hui, on a des grands problèmes dans ce domaine.
À propos des mesures qui pourraient être prises, j'ai lu que plusieurs organisations demandent au Conseil fédéral d'examiner et mettre en œuvre plusieurs mesures, notamment celles qui stipulent, entre autres, que les autorités douanières, vous venez d'en parler, doivent être tenues d'enregistrer le pays d'expédition et, dans la mesure du possible, le pays d'origine. Pourquoi « dans la mesure du possible » Ce n'est pas un peu frileux et timide alors qu'on devrait plutôt parler d'obligation?
Non, vous avez bien la même raison, mais là, c'est quand on dit « dans la mesure du possible », c'est quand on parle en fait de la problématique de l'or recyclé. Parce que c'est clair que pour l'or minier, on doit obligatoirement, c'est obligatoire que cet or soit retracé jusqu'à la mine. Par contre, pour l'or recyclé, on devrait pouvoir le retracer jusqu'au moment où cet or a été considéré comme recyclé, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des résidus de bijoux ou de vieux bijoux qui ont été revendus à une raffinerie. Mais il y a aussi une certaine hypocrisie avec cet or recyclé, puisque certaines raffineries ou joailleries disent qu'ils travaillent uniquement avec de l'or recyclé, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, de l'or minier, après avoir été utilisé dans la fabrication d'une montre, peut devenir par exemple de l'or recyclé extrêmement rapidement, en moins de quelques semaines. Là, c'est clair qu'on doit réussir à bien différencier entre les deux pour pouvoir remonter les deux chaînes d'approvisionnement de manière différente. Mais si on regarde la problématique de l'or minier, on a aujourd'hui un grand problème avec, c'est l'article 10.2 de l'ordonnance sur la statistique du commerce extérieur qui dit que, en fait, le pays d'origine peut être considéré soit comme le pays d'extraction, soit comme le pays de transformation. Donc le problème qui se pose, c'est que quand de l'or est extrait au Mali, de l'or artisanal est extrait au Mali, il est envoyé à Dubaï, il est pré-raffiné à Dubaï et ensuite il arrive en Suisse. Le raffineur en Suisse, il va déclarer comme pays d'origine les Émirats Arabes Unis. Et le grand problème, c'est que vous prenez les statistiques, vous voyez pays d'origine Dubaï, alors que vous savez pertinemment qu'il n'y a pas de mine à Dubaï. Donc on ne peut pas retracer jusqu'au pays d'origine. Et aujourd'hui, quand on sait, de même, il y a plusieurs études qui ont démontré la problématique de l'or artisanal qui passe par Dubaï et qui n'est généralement pas déclaré. Donc c'est des centaines de millions de francs qui ne vont pas dans les caisses de plusieurs États africains, puisque cet or illégal n'est pas déclaré. Et ensuite, il est importé en Suisse et on déclare les Émirats Arabes Unis. Et c'est une sorte de blanchiment. Et dès que tout ça est raffiné, on perd complètement la trace. Et on ne sait plus comment cet or a été produit, dans quelles conditions, et s'il a été déclaré ou pas.
Donc cette traçabilité sera mise en œuvre si l'initiative passe, par exemple. Ça signifie qu'on devrait pouvoir trouver la première provenance de l'or, donc le Mali, par exemple.
Oui, bon, faut différencier entre... Parce que l'initiative ne parle que des droits humains et de l'environnement, et ce qu'elle va mettre en œuvre, c'est la responsabilité civile.
Ouais.
Donc c'est vraiment la question du devoir de diligence. Après, forcément que s'il y a plus un devoir de diligence plus grand qui est fait, ça va amener à une certaine transparence, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va réussir à aller jusqu'à la mine d'origine. La question de la transparence devrait être traitée de manière différente dans un article au niveau des déclarations douanières. Donc là, on doit agir à différents niveaux pour améliorer non seulement le devoir de diligence et la transparence de l'origine de l'or.
Comment réagissent les raffineries dont on parlait tout à l'heure par rapport à cette initiative ou par rapport au fait qu'un jour, elles devront se poser des questions différemment sur la provenance de l'or?
Si on prend le cas d'initiative, elles sont extrêmement critiques et elles ont très peur de cette initiative. Enfin, elles sont très critiques vis-à-vis de cette initiative parce qu'ils le disent elles-mêmes, si l'initiative passe, on va se retrouver avec des centaines de plaintes contre elles. Donc, c'est quand même un peu curieux d'entendre ça de leur part. Donc, ça veut dire à demi-mot qu'ils sont impliqués dans des cas qui posent problème. Et nous, on a beaucoup de peine à comprendre pourquoi le secteur qui est aussi en bas, qui est aussi plus bas, c'est-à-dire toutes les joailleries ou les horlogers ne soutiennent pas cette initiative, puisque s'ils savaient pertinemment que les raffineries étaient soumises à une responsabilité civile, peut-être qu'ils pourraient être plus confiants ou avoir moins de soucis sur la provenance de l'or. De même, aujourd'hui, certains raffineurs nous disent « Oui, mais si l'initiative passe, il ne faut pas exclure qu'on quitte la Suisse, que voilà, la concurrence est tellement forte. »
Et nous, toujours les mêmes arguments,
mais nous on leur répond qui va encore acheter de l'or à une raffinerie qui dit qu'elle quitte la Suisse parce qu'elle doit respecter les droits humains.
Quel est le rôle des joailliers et puis des horlogers? Est-ce qu'ils font aussi pression pour mieux connaître justement la provenance de l'or? Est-ce que la clientèle n'est pas non plus, vu qu'on est dans une série où on parle aussi des consommateurs par rapport aux actions des transnationales? Est-ce que la clientèle, elle fait pression sur le joaillier ou...
Oui, c'est une thématique c'est un sujet extrêmement important et sur lequel on voit aussi que les gens deviennent de plus en plus sensibles à la provenance de cet or. Donc dans la joaillerie, c'est clair que personne n'a envie d'avoir un bijou qui a été fait par des enfants ou qui a participé au financement d'un conflit.
Bon, on a déjà tous les téléphones qui le sont.
On a déjà les téléphones, mais c'est vrai
si
que...
Si en plus on a des bagues,
ça va être encore plus compliqué. Et voilà, jusqu'à présent, c'est plus ou moins le cas. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est encore très faible, mais on voit quand même qu'elle augmente de plus en plus. Et vous avez certains acteurs comme Chopard, par exemple, qui a décidé l'année passée de s'approvisionner uniquement en or responsable, en or éthique. Ce qui est une très bonne chose, mais c'est aussi un coût marketing. Alors peu importe si le marketing entre là-dedans, puisqu'après ils peuvent vendre leur or éthique, leur or responsable, ce qui est une très bonne chose. Mais le problème, c'est que la production n'arrive pas aussi à suivre, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui simplement attendre que de l'or responsable arrive dans nos mains, mais c'est aussi à ces acteurs-là de s'engager dans cette formalisation.
Parce qu'on en reste quand même sur ces 2,5 tonnes d'or dont on sait la provenance éthique.
Oui, donc c'est l'objectif de cette Better Gold Initiative, c'est d'importer 5 tonnes. D'importer 5 tonnes l'année prochaine. Aujourd'hui, on en verra à 2,5 tonnes. Donc, c'est un début, mais c'est encore très minime. Donc, les acteurs vraiment en bas de la chaîne de valeur doivent s'engager davantage. Aujourd'hui, quand on regarde leur processus de diligence, on voit qu'il y a certaines études qui ont montré que certaines ne sont pas du tout regardantes, en particulier dans le domaine de l'horlogerie notamment, ou ne sont pas du tout transparentes sur les mécanismes qu'elles mettent en œuvre. Donc, certaines se repose uniquement sur le devoir de diligence de la raffinerie. Donc chacun reporte sa responsabilité à l'acteur qui est juste au-dessus de lui dans sa chaîne d'approvisionnement. Mais il y a certains acteurs, c'est notamment le cas de Tiffany aux États-Unis ou Cartier qui fait aussi des bonnes choses, qui essaie d'aller au-delà du raffineur pour voir vraiment comment cet or est produit, quelles sont les conditions de production dans la mine d'origine.
Donc Chopard, on peut dire qu'ils achètent cet or qui vient de la Gold Initiative.
Oui, enfin eux, ils travaillent beaucoup avec Fairmind, mais le problème c'est que cet or Fairmind n'arrive pas encore à approvisionner l'ensemble de la demande chez Chopard.
Donc là, à ce point-là.
Oui, donc même un acteur qui s'engage, ça n'arrive pas encore à avoir tout l'or qu'il aimerait, mais c'est déjà un acte très positif.
Une question plus générale, Marc, avec l'arrivée d'un probable nouvel équilibre sur la coupole fédérale, comment voyez-vous, comment suit cette voie le futur depuis votre observatoire, et plus particulièrement en tant que membre de la coalition pour l'initiative pour des multinationales responsables?
C'est clair qu'avoir un Parlement plus progressiste, c'est forcément positif, donc on se réjouit de ce changement. Maintenant, on espère que c'est clair qu'il y aura il y aura notamment la votation sur le contre-projet de l'initiative. Donc là, il y a des résultats positifs, de même que les différentes motions ou interpellations qui ont été déposées sur la thématique de l'origine de l'or. Et de manière plus générale, avec le secteur des matières premières en Suisse, que ce soit le négoce ou les acteurs qui sont actifs dans le domaine de l'or, on espère que des mesures contraignantes vont être prises pour que ce secteur améliore ses pratiques et prenne enfin ses responsabilités face aux enjeux très, très importants qui sont en jeu. Il faut quand même savoir aujourd'hui que c'était une étude du McKinsey Institute qui disait que si les populations bénéficiaient de la richesse de leur sous-sol, on arriverait à réduire la pauvreté, on arriverait à la diviser par deux. Donc il y aurait 500 millions de personnes qui sortiraient de la pauvreté d'ici 2030. Alors évidemment que la Suisse n'a pas l'acteur unique, mais elle a son rôle à jouer, notamment dans le domaine de l'or, notamment après plus généralement dans la question aussi du négoce des matières premières, mais joue un rôle extrêmement important dans ce domaine des matières premières.
Elle n'est pas seule, mais en même temps, elle accueille sur son territoire énormément de multinationales qui travaillent dans ces matières premières.
Oui, et si vous regardez, alors là, l'or, on l'a dit, c'est 70% de l'or qui est raffiné en Suisse, donc il y a quand même une énorme quantité d'or qui passe par la Suisse, donc là, il y a un contrôle fort qui peut être fait pour être remonté dans la chaîne d'approvisionnement. Vous regardez le cas du pétrole, vous avez 40% du pétrole qui est négocié en Suisse, vous avez 60% de certains métaux, que ce soit le cuivre, le zinc, qui sont négociés en Suisse, de même pour les matières premières agricoles qui passent par la Suisse. Si tous ces acteurs faisaient attention dans la chaîne d'approvisionnement aux conditions de production de ces matières premières, on pourrait avoir un impact extrêmement important. Et là, on ne parle que encore du respect des droits de l'homme, de l'environnement. Après, vous avez toute la question de la fiscalité, vous avez la question de la corruption. Donc ça, c'est toutes des thématiques extrêmement importantes qui contribuent aussi à cette problématique de la malédiction des matières premières.
Marc, vous avez lu l'article de Isabelle Chevalet dans Le Temps du 19 février 2019, où, en quelque sorte, elle prône un petit peu, où elle soutient le travail des enfants. Qu'est-ce que ça vous fait?
Oui, c'est une position assez surprenante d'une certaine manière, de même qu'elle accuse les ONG de colonialisme, ce qui est quand même un peu surprenant, parce qu'il faut quand même savoir que les ONG travaillent beaucoup avec les organisations locales, avec les gouvernements, les autorités locales. La question du travail des enfants, c'est une question extrêmement importante et qu'on ne va pas pouvoir bannir du jour au lendemain, tout le monde en est conscient, mais Si vous prenez la thématique de l'or, je crois que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement sont d'accord pour bannir le travail des enfants dans le secteur de l'or. Et aujourd'hui, quand vous regardez les standards, même la RJC, la LBMA, le standard de l'OCDE qui fait office de référence, tout le monde dit que le travail des enfants doit être banni et interdit dans ce secteur. Donc c'est clair que c'est très surprenant d'avoir une parlementaire qui nous dit que bon, s'il y a le travail des enfants, c'est pas si grave. Au final, c'est plus ou moins normal, ça fait partie de leur coutume. On peut difficilement accepter ces propos, même de même que les points qui sont soulevés, que quand il n'y a pas une école qui est à proximité, quand la famille éprouve beaucoup de difficultés, évidemment que c'est un problème et que les enfants viennent parfois en aide, mais je crois qu'il faut quand même aussi différencier. Quand vous avez des enfants qui sont pratiquement dans des conditions d'esclavage, condamnés à descendre dans des trous extrêmement fins où ils perdent leur vie, je ne pense pas qu'on peut défendre ce type de pratique.
Merci beaucoup, Marc.
Merci à vous.
Au terme de ce 10e billet de Le Monde est beau sur l'initiative pour des multinationales responsables, nous tenons à remercier Marc Hummel, responsable matières premières auprès de l'ONG Suissed, pour sa contribution à la compréhension de la chaîne d'approvisionnement de l'or. À la conception, réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattagne. Nous remercions Radio Django pour permettre la diffusion de cette série d'émissions sur les multinationales responsables. À la semaine prochaine.
Por la calle, una sombra se dibuja el eco frío donde va ese perro, perro negro, entre el humo que aparece por el bar.
No se encuentra con la parca porque se hizo un trato para gobernar. Ese perro pareciera, ese perro pareciera de Nahual. Corre, salta, brinca, salta de la barda por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo la banqueta que va murmurando las palabras que van caminando las paredes. Busca la verdad, dice la verdad. Dice la verdad.
Quiero la verdad.